Un beau dévouement. Une histoire vraie, quoique invraisemblable. Un millionnaire américain avait parmi ses employés un homme très capable, mais très ardent à propager les doctrines socialistes. Ce patron mit à la porte ce serviteur compromettant, bien qu'il n'eût pas à lui reprocher une infidélité ou une inexactitude dans son travail. Mais ses idées ne lui convenaient pas, ni la franchise avec laquelle il les répandait. Le dur capitaliste chassa l'homme, sans se préoccuper de ce qu'il deviendrait, sans réfléchir qu'un traitement pareil ne pouvait qu'exaspérer le malheureux et l'égarer davantage dans la voie des revendications violentes et de la haine sociale. Ce millionnaire avait un fils converti à Jésus-Christ et animé de l'Esprit de Dieu et dont tout le temps se passait à faire autour de lui le plus de bien possible sans se préoccuper des idées politiques de ceux à qui il portait secours. Un jour, une grève éclata dans la ville de New York, et cette grève prit de si grandes proportions qu'il y eut collision sanglante entre les ouvriers et la police. Saisi de pitié, voulant à tout prix mettre un terme à ce combat fratricide, le courageux jeune homme se jeta dans la mêlée avec des paroles de paix adressées aux grévistes qui le connaissaient et dont beaucoup avaient accepté ses bienfaits. Au premier rang se trouvait l'agitateur que son père avait renvoyé. Au moment où la police allait charger de nouveau, le fils du capitaliste se plaça devant l'ennemi de son père. Un coup de feu retentit. Le jeune homme tomba, victime, lui représentant de la classe opulente, de son dévouement, en faveur de la classe déshéritée, et spécialement en faveur de l'homme qui haïssait son père et que son père haïssait. Voilà un beau trait, digne des temps antiques. Digne surtout de celui qui l'a inspiré, Jésus-Christ. Car l'Évangile seul avait pu donner à ce jeune homme un tel héroïsme, lui apprendre à aimer même jusqu'à mourir pour eux des hommes qu'une éducation trop partiale lui avait sans doute enseigné à considérer comme ses ennemis naturels. Cette mort rappelle, quoique de bien loin seulement, le sacrifice accompli par Jésus-Christ en notre faveur. Lui aussi appartenait à un autre monde, à un monde supérieur, et rien ne l'obligeait à se rendre solidaire des malheureux habitants de ce globe. Fils du maître souverain, le seul maître dont le pouvoir soit de tout point légitime et ne doive jamais être contesté, car il est parfaitement juste, il a pris parti pour les révoltés sans les suivre dans leur révolte, mais au contraire afin de les ramener à l'obéissance. Il s'est placé entre la loi et les pécheurs. Et le châtiment mérité par eux est tombé sur lui. Oh, quel amour, quel héroïsme que l'amour et l'héroïsme de la croix. Ce serait cependant une fausse application de cette histoire employée comme comparaison si nous voyions dans ce capitaliste sans entrailles une image du Dieu créateur. C'est de cette erreur-là qu'est née la formule célèbre, aujourd'hui acceptée par des multitudes de travailleurs comme l'expression de l'idéal liberté, ni Dieu, ni maître. Formule qui serait blasphématoire, si elle n'était chez la plupart du moins excusée par l'exécrable enseignement prétendu religieux qu'on leur a donné dans leur enfance. Sans doute, si Dieu n'était que le plus grand, le plus implacable, le plus cruel des capitalistes, s'il n'avait que des sévérités pour les hommes, ses esclaves, exigeant d'eux plus qu'ils ne peuvent donner et ne respectant pas leur libre arbitre, il faudrait se révolter contre lui, ou plutôt il faudrait conclure qu'il n'existe pas. Mais rien n'est plus faux que cette doctrine. Bien loin que nous soyons réduits à la misère par la privation de notre liberté, nous ne sommes misérables que parce que Dieu a respecté notre liberté et la respecte encore même dans ses égarements. Bien loin que Dieu soit le premier de nos tyrans, il fait seul contrepoids à tous nos tyrans ensemble. Qui n'a pas Dieu doit avoir des maîtres, hommes ou choses. Dieu nous a créés, nous, pour avoir, lui, des objets à aimer, et afin que ces objets fussent dignes de son amour, il les a faits à son image. Nous sommes de sa race par droit de naissance. Trompés par le mystérieux serpent, nous nous sommes révoltés. Et c'est alors que Dieu, le même Dieu qui nous avait créés, s'est fait homme afin de nous créer de nouveau, en nous donnant cette fois une ressemblance plus parfaite avec lui. C'est pour opérer cette création nouvelle que le Fils a pris sur lui notre condamnation et qu'il est mort à notre place. Il nous a ainsi donné Dieu pour Père. Bénissons-le de tant d'amour, adorons-le avec reconnaissance, attachons-nous à lui de toutes nos forces et faisons connaître autour de nous la grâce infinie de notre Dieu.